On va continuer avec la prédication. Et puis, j'ai hâte de vous partager ce message. Et je vais vraiment être aligné avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on est dans une série qui s'appelle l'Évangile sans filtre. Et on a voulu définir qu'est-ce que c'était l'Évangile. Pourquoi? Ben pour, oui, la comprendre, être capable de le vivre, être capable de s'émerveiller devant cet Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on a vu la semaine dernière, et je vais le répéter parce que c'est vraiment important, on a vu comme 6 étapes ou 6 énoncés qui résument ce que c'est cette bonne nouvelle ou cet Évangile en Jésus-Christ. Alors, on va y aller comme ça, puis par la suite, la semaine dernière, j'ai utilisé la parabole du fils prodigue pour illustrer l'Évangile, et je vais utiliser une autre parabole de la même façon pour vous illustrer l'Évangile, et on va y aller un peu de la même façon, et ça commence comme ceci. Un, plus important, Dieu est le roi. C'est lui le boss, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui fait l'impossible, c'est lui qui est le premier d'entre les premiers, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, appelez-le comme vous voulez, Dieu est le roi. Et le roi nous a merveilleusement créés à son image pour sa gloire. Amen. Ça commence bien, hein? D'ailleurs, quand on parle de Dieu, souvent ça va très bien, mais quand on s'arrête à la condition humaine, ça va moins bien. Et c'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, nous avons péché. Nous avons péché. Notre nature déchue en Adam et Ève, nos choix et nos fautes nous ont éloignés de Dieu. Et la relation entre Dieu et l'être humain est brisée et nous sommes privés de sa gloire. On a été créés pour sa gloire et là, à cause du péché, on est privés de sa gloire. On continue. La mort est une juste sanction. La conséquence équitable du péché, c'est la mort, une condamnation éternelle loin de la présence de Dieu. Ça fait mal, ça, hein? Mais Dieu a donné son Fils Jésus. Et le sacrifice de Jésus, sa résurrection, nous permet un accès à la vie éternelle. Il a annulé la malédiction sur nous en devenant malédiction sur la croix pour nous. Une substitution. Nous étions destinés à quelque part méritants de cette croix, mais Christ, substitution, il a pris notre place à la croix et la malédiction qui devait reposer sur nous reposait sur Jésus. Vous êtes moins amen, mais c'est tout aussi bon. Hein? Alors, Dieu restaure notre relation avec lui. La vie éternelle est un don gratuit à tous les rachetés. Ceux qui croient, se repentent, ceux qui placent leur confiance en Jésus en tant que sauveur, seigneur, roi et trésor de leur vie. Et la dernière et non la moindre, 6e, Dieu nous transforme. Par la nouvelle naissance, une communion vivante avec lui, nous sommes constamment transformés à sa ressemblance par son esprit qui habite en nous et nous vivons pour sa gloire jusqu'à son retour. On a été créés pour sa gloire. Le péché a brisé la gloire. Jésus-Christ a pris malédiction, notre malédiction, il l'a portée à la croix. Il a restauré notre relation avec lui et on peut revoir cette gloire-là à travers notre relation avec lui. Et puis finalement, Dieu nous transforme de gloire en gloire jusqu'à temps qu'on soit dans la gloire avec lui. Gloire à Dieu! Amen, amen. Bon, ça fait pas mal de gloire, là. J'essaie pas de vous mêler avec la gloire, mais j'essaie juste de vous expliquer que la gloire est fondamentale dans ce qu'on peut comprendre de l'Évangile. Et là, on arrive, et si vous avez votre Bible papier ou votre téléphone, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 18, à partir du verset 11 à 32. Et exceptionnellement, je vais prendre la version Nouvelle Édition Genève, simplement parce que la traduction va parler des unités de mesure qui étaient utilisées à cette époque-là, puis ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la dette qui a été contractée. Par cette personne-là qu'on va voir dans cette parabole. Alors, Matthieu 18, et on va commencer à partir du verset 23. Le contexte, c'est que Pierre va demander à Jésus, « Hey, là, combien de fois il faudrait que je pardonne à quelqu'un qui me fait la même niaiserie? Est-ce que je le pardonnerais jusqu'à 7 fois? » Et puis là, il faut comprendre qu'à l'époque, les pharisiens, eux, et c'est un commentaire que je disais que j'ai trouvé très intéressant. Les pharisiens et les spécialistes de la loi interprétaient qu'après 3 fois, tu n'avais plus besoin de pardonner. Fait que l'apôtre Pierre va dire, « Hey, est-ce qu'on pardonnerait jusqu'à 7 fois? » Fait que l'apôtre Pierre se sent super généreux, là. Il est vraiment là, il va over plus de deux fois au-delà de ce qui était enseigné selon ce qui est rapporté. Et puis là, Jésus va lui dire, « Ben non, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. » Là, ça fait 490 fois. Fait que là, on comprend que celui qui avait étiré un petit peu, ben, le Seigneur a décidé que c'était plus large que ça. Et là, c'est dans une démarche de l'idée de pardonner son frère ou de pardonner son prochain. Et voici l'histoire et la parabole que Jésus va expliquer. Il va dire, c'est pourquoi au verset 23, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Verset 26, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Je fais une petite parenthèse, si vous avez un compagnon comme ça, c'est peut-être pas un si bon ami. Mais en tout cas, vous allez comprendre pourquoi. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Ouf! Ouf! Oui, triple ouf! Triple ouf! On voit l'importance de pardonner dans ce texte-là. On va en parler un petit peu plus tard, mais honnêtement, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer tant de choses que ça. Juste votre ouf m'explique que vous avez compris que pardonner, ça coûte quelque chose. Et ça coûte de ne pas pardonner aussi. C'est d'ailleurs le principe de cette parabole-là. Mais je veux utiliser cette parabole-là pour illustrer, oui, l'idée de l'importance de pardonner, mais également l'Évangile. Qu'est-ce que cette histoire-là nous raconte sur l'Évangile? Et vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes dans cette parabole-là. En fait, dans cette histoire-là, quand on prend et on peut peut-être aller au premier point, Dieu est le roi, juste pour qu'il soit en filigrane pour les gens qui sont ici, et on salue ceux qui sont à distance. C'est très facile d'imaginer Dieu comme roi dans cette histoire-là. En fait, il y a toutes les richesses et une dette de ce genre est absolument gigantesque. Là, je veux juste vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est cette dette-là. Quand on parle que le compagnon là, qui devait 100 deniers, là, 100 deniers, c'est l'équivalent, un denier, c'est l'équivalent d'une journée de travail. Grosso modo, une pièce, un denier, une journée de travail, un denier, ça ressemble à ça. Okay? Mais quand on parle d'un talent, on parle de 30 kilos d'argent. Kilos. Dire ça, c'est plus de 60 livres de métaux précieux. OK? Et ça, c'est un talent. Mais là, dans la parabole, est-ce que vous vous souvenez, c'est combien de talents que l'homme devait au roi? 10 000! 10 000 fois 30 kilos. Je fais le calcul, là, puis là, je l'ai fait. Ceux qui veulent vérifier, vous réécouterez, puis vous calculerez sur votre cellulaire, là. Mais c'est l'équivalent de 60 millions de deniers. 60 millions de journées de travail. C'est l'équivalent d'à peu près 164 383 années de travail, 100 jours fériés pour la fête du travail, évidemment. Alors, si vous avez quelque chose à faire, bien, 164 000 années consécutives, 100 journées de congé, à un denier par journée, ça donne à peu près l'équivalent de la dette que cet homme-là avait envers le roi. C'est quelque chose, hein? Et en fait, à cette époque-là, il n'y a pas grand homme ou femme à cette époque qui est capable de payer une dette comme ça. C'est vraiment un montant. Et quand on regarde la parabole, tout est là pour, pas que ça soit calculé à la scène, Mais le montant est juste pour dire que la dette est absolument immesurable ou à quelque part extravagante au point que personne ne pourrait la repayer. Et ça, ça nous indique que dans l'histoire, le serviteur serait probablement un haut placé. À qui est-ce qu'on peut prêter une somme pareille? Ben, c'est probablement quelqu'un qui était... En tout cas, on peut imaginer que ça devait être un proche du roi ou quelqu'un qui est là. Et à quelque part, pour emprunter une telle somme, il faut avoir une certaine liberté dans le royaume. Ce n'est pas quelqu'un en prison qui peut emprunter pour 164 000 années de travail. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors, cet homme-là qui a cette dette-là, il est dans le royaume avec la liberté d'agir et de gagner sa vie. Alors ça, c'est le contexte, Dieu est le roi. Puis lui, il est là. Mais là, on passe au deuxième, nous avons péché. Là, c'est quand même pas très difficile d'imaginer qu'on ne peut pas accumuler une dette comme ça en prenant des bons choix. Oui? Irresponsabilité, action non fructueuse, mauvais choix, insouciance. Et à un tel point que sa dette est tellement grande que lorsque le roi vient, ben c'est pas juste sa propre vie qui devrait payer cette dette-là, mais même celle de ses enfants, même celle de son épouse, etc., etc. Alors bref, même dans cette histoire-là, on voit que ses mauvais choix n'influencent pas uniquement sa propre vie à lui et sa business. De toute façon, à cette époque-là, il n'y a pas de ministère de la faillite qui permet de rayer toutes les dettes puis de recommencer à zéro sans pouvoir emprunter pendant 7 ans. Okay? Il payait de sa propre vie et ça influence toute la famille. Toute la famille. Et on voit que cette dette-là, elle ne peut pas venir uniquement d'une bad luck. Tu ne peux pas juste être bad lucké puis d'avoir pour 164 000 années de dette et de travail. Vous comprendrez? Donc, on voit vraiment l'illustration du mauvais choix. Et on passe à l'autre. Je pense que je n'ai pas besoin de l'illustrer bien plus que ça, là. Et peut-être juste petite note, si vous ne l'aviez pas remarqué, mais quand quelqu'un nous doit l'équivalent de 100 journées de travail, quand nous autres, on en devait 164 000 années, puis qu'on le prend, puis qu'on l'étrangle, c'est un extrêmement mauvais choix. On va le dire comme ça? On appelle ça un péché? Ça va? OK, bon. Fait que le gars était capable. Hein? Et ce qu'on voit, c'est que, et à travers l'Évangile, à travers ces énoncés que je vous amène, on continue en voulant dire, comment est-ce qu'ici, il y a l'illustration que la mort est une juste sanction? Tu sais, si vous avez, par exemple, 100 000 de dettes sur une carte de crédit puis pas de revenus, vous connaissez la trajectoire de votre situation. La trajectoire de votre situation, je ne suis pas un planificateur financier, j'ai déjà travaillé dans le domaine, mais je peux vous dire que votre situation s'enligne tout droit vers une faillite personnelle et d'autres niaiseries financières. À 22 % ça va vite. Okay? Puis là, 22, c'est un bon taux, là, entre guillemets. C'est à la limite du taux usuraire qui est non permis par la loi, mais ça, c'est une autre histoire. Okay? Mais l'idée, c'est que cet homme-là avait la même trajectoire. Sa trajectoire allait vers la mort, vers la prison, vers l'idée d'être un esclave ou l'idée que le roi dit comme « pour toi, c'est fini ». Imaginez que vous devez 164 000 années de travail et puis que là, le roi dit « c'est assez », il vous envoie en prison. Comment vous allez rembourser si vous êtes en prison? C'est comme au Monopoly, là. Quand tu es en prison, tu ne récoltes pas 200 $ de passe égaux. Bon, c'est un peu. Fait que tu sais, comprends que la situation de cet homme-là est assez sans issue, ou plutôt complètement insolvable. Et bref, à cette époque-là, c'était de leur propre vie qui payait ou qui remboursait leurs dettes. À l'époque, un roi qui a un serviteur comme ça, puis qui lui doit tout, puis qui ne peut pas repayer, ben, sa trajectoire, c'est la mort. Puis c'est, à quelque part, la conséquence. Puis là, je vais aller à l'autre partie, parce que là, on voit la dette, puis on trouve ça énorme. Mais admettons que vous avez été gracié de 60 millions de journées de travail, puis qu'après ça, vous allez au coût de la personne qui vous en doit 100, puis que vous voulez le faire payer jusqu'à vendre la vie de la maison, la famille, tout ça. Est-ce que ce serait une juste sentence de passer au bourreau? Oui, absolument oui. Parce que vous n'avez pas répondu, vous aviez peur. Mais absolument oui, pour ne pas dire gros cave. Vraiment, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Fait que d'une certaine façon, on peut voir cette histoire-là en disant, « Ah, waouh, le maître l'a complètement pardonné, c'est extraordinaire. Mais quand le gars prend le coup de son compagnon à 100 deniers, il a peut-être fait pire que ces 60 millions de deniers qu'il devait. Là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là. C'est aussi pire, sinon plus. Et puis, je vais faire un parallèle. Et là, je vais utiliser Joanne et Johan. Admettons que Joanne et Johan ont 43 ans, puis que non-chrétiens, ça veut dire qu'ils ont vécu à peu près 15 695 jours, selon ma calculatrice scientifique. Et disons que dans une journée, ils dorment 8 heures. Hein? Qui ici rêverait de dormir 8 heures dans sa nuit? OK. J'étais un optimiste. Je mets qu'il dort 8 heures, OK? Fait qu'il reste juste 16 heures dans sa journée. Et qu'on peut dire qu'en moyenne, d'une façon conservatrice, cet homme-là, Johan puis Joanne, aurait pêché 2,5 fois par heure. Qu'est-ce que ça donne comme total? Là, c'est mon petit background d'administration qui arrive, là, mes petits calculs. Là. J'ai du plaisir. Ça donne un total de 627 800 péchés commis à 43 ans. C'est uniquement 1% des 60 millions de deniers quand même. Là. C'est pas le même chiffre. Mais pouvez-vous imaginer le nombre de péchés qu'une personne peut commettre dans sa vie et sans l'intervention de la croix, ces péchés-là s'accumulent sans possibilité d'être rachetés? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que cette parabole-là illustre très bien qui nous sommes comme êtres humains. Et qu'est-ce qu'on mérite aussi? Et quelle est la dette immense qui est attribuée à notre compte? Vous dites, ah là, quelqu'un qui doit 600 millions de deniers, il a fait des mauvais choix, c'est épouvantable, mauvais administrateur, épouvantable. Mais quand je fais juste prendre ce petit calcul-là, 627 000 péchés à 43 ans, Joanne et Johan sont pas pires aussi. Hein? Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Quelle devrait être la conséquence d'une personne avec une si grosse dette qui refuse de pardonner, qui refuse de reconnaître la valeur du pardon qu'il a reçu par le roi, qui se détourne de la voie de son maître? Ben, on appelle ça une condamnation éternelle loin de la présence du roi. C'est pour ça que, des fois, c'est un peu touché de dire ça dans notre culture, de dire que ce qu'on mérite, c'est vraiment la mort, là, tu sais. Parce que, tu sais, on essaie tout le temps de niveler par le bas, là. C'est difficile à dire parce que dans notre culture, ça sonne pas bien. Mais dans l'Évangile, ça sonne très bien. Pas parce que l'Évangile est méchant, mais parce que si on réalise qu'on a été pardonné, ça devient magnifique de savoir la dette qu'on avait pour être capable de comprendre et de réaliser le pardon qui vient. Si vous devez 20 piastres à quelqu'un puis il dit « Ah, finalement, je suis correct, laisse faire », vous êtes content. 20 piastres de plus, c'est le fun. Vous êtes béni. Mais si c'est 60 millions de dollars, peut-être que vous allez plus que dire « Ah, ben merci, t'es bien fin », vous allez peut-être dire d'autres choses. Peut-être pas, peut-être que vous êtes humble de cœur. Mais théoriquement, la réaction est proportionnelle à ce qu'on a reçu comme cadeau, hein? Et on continue dans les énoncés de l'Évangile, c'est que on voit là-dedans, on voit la juste sanction, là, mais on voit également que Dieu a donné son fils. Et peut-être qu'ici, c'est peut-être moins évident que dans la parabole du fils prodigue. Mais j'aimerais vous dire que c'est le roi qui est celui qui va de l'avant pour proposer de régler les comptes. Déjà, une petite histoire-là, un petit truc. Et dans le royaume de cette histoire-là, ce qu'on voit, on voit qu'il y a de la grâce, on voit qu'il y a de la compassion, on voit qu'il y a du pardon, on voit qu'il y a de la générosité, on peut le voir dans cette histoire-là, mais on voit aussi que la justice n'est pas complètement enlevée de ce royaume-là. C'est pas parce qu'il y a de la générosité, c'est pas parce qu'il y a de la grâce, c'est pas parce qu'il y a le pardon que la justice ne s'applique pas ou que la justice disparaît du royaume. Ça efface pas la justice. Et à quelque part, sachant très bien que la personne ne pourrait pas payer, le roi ordonne que sa famille soit vendue parce que c'est la façon juste de régler partiellement sa dette impossible. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça prend conscience. Ça donne conscience à cet homme-là de l'ampleur de sa dette. et que finalement, son seul espoir, c'est quoi? C'est de tomber à genoux puis de demander grâce. C'est vraiment la seule chose qu'il peut faire. Puis, à quelque part, dans cette histoire-là, ce qu'on voit, c'est que le roi, quand il fait venir l'homme pour sa dette, il ne le fait pas venir comme étant un roi qui a besoin d'argent. C'est pas genre, ah, il faut que j'aille faire la guerre, ça me prend 60 millions de deniers, paye-moi-le tout de suite. Le roi, quand il le fait venir, il sait déjà qu'en réserve, il a toutes les richesses pour gracier la personne qui est devant lui. Il le sait. Il sait qu'il a les richesses de le pardonner. Et à quelque part, le roi avait une solution en réserve. Et ça, c'est une image vraiment de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix qui, en équivalent d'argent, finalement, c'est un montant suffisant pour couvrir la grandeur de la dette de cet homme-là. Je ne sais pas si vous voyez où ce que je veux en venir. C'est que le roi avait toutes les richesses pour avoir les moyens de régler la dette. Dans notre imaginaire à nous, souvent, on voit l'Évangile comme « Dieu a effacé ma dette ». Et dans notre esprit, c'est comme il l'a oublié. Tant mieux, il est amnésique. Le pardon, c'est l'amnésie de Dieu. Il a pardonné, fait que, yes, il ne s'en souvient plus. Ça a été rayé des dossiers comptables, puis personne ne s'en est rendu compte. Mais en fait, l'image ici qu'on a, ce n'est pas que Dieu aurait oublié ou que le livre comptable soit plus valide. Ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu a payé le prix complet. Le 60 millions de deniers, c'est ce qu'il a payé à la croix pour non pas juste dire « c'est fini, c'est pas grave », mais c'est dire « je prends le 60 millions de deniers, je l'applique à ta dette et tu es maintenant pardonné, j'ai payé le prix. » Et quand on voit cette image-là, elle est peut-être un peu plus parlante dans une génération comme la nôtre où est-ce que l'argent prend une place prépondérante dans tout ce qu'on fait, plutôt que juste l'idée « ah ben il l'a oublié ». Est-ce que c'est vrai qu'il l'a oublié? Oui! Est-ce que c'est la seule image que l'Écriture utilise pour parler du pardon en Jésus? La réponse, c'est non. Il y a cette image-là de la dette payée, mais il y a également l'image d'un juste juge qui est là et puis que Jésus prend sa place et dit « ah, la dette a été complètement, comment je dirais ça, purgée. Le temps a été purgé. Tout ce qui avait besoin d'être payé a été payé. Il y a l'idée de l'argent, il y a l'idée de la cour de justice et il y en a d'autres. Mais ici, on a vraiment cette histoire de le prix payé. Et à quelque part, j'aimerais vous poser la question suivante. Si quelqu'un devait mourir à votre place, vous poseriez sûrement la question du pourquoi. Si Jésus est mort à la croix, la question est la même. C'est pourquoi? Bien, prendre conscience de son péché, c'est la première étape pour comprendre le pourquoi. La croix de Jésus-Christ a coûté cher, mais ça a une valeur de grand prix, suffisante pour payer même la dette impossible de notre état de pécheur. Si on ne peut pas connaître notre besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on ne comprend pas notre état de pécheur, ou plutôt la dette qui est reliée à notre vie. Puis là, si vous avez besoin d'un calcul, je peux vous envoyer un tableur Excel pour que vous puissiez mettre votre âge. Puis peut-être vous dites, ben moi, je suis un bon gars, je fais juste 1,5 péché par heure. Vous pourrez ajuster ça si vous voulez, mais croyez-moi que le chiffre va être plus grand que ce que vous avez imaginé. On ne peut pas comprendre la valeur du sacrifice à la croix si on ne comprend pas notre état de pécheur. Et Dieu restaure, malgré tout ça, malgré la grandeur de la dette. Quand le roi va dire « Hey, ta dette est effacée » ou « Regarde, c'est correct », bien, quelque part, il est en train de prendre probablement un haut dignitaire et de le rétablir dans ses fonctions, dans ce pourquoi il a été même capable d'emprunter une somme aussi épouvantablement grande. Il est en train de restaurer la relation. Il est en train de la restaurer. Puis, à quelque part, ce qu'on voit, c'est que l'homme va reconnaître sa dette. Il va se prosterner, et ça, c'est une image claire de l'idée de la repentance. Cette idée-là de hey, « je reconnais ma dette, je reconnais mon péché, prends patience, prends pitié », c'est une image claire de la repentance. Et le roi va faire quoi? Il va dire « ouais, ta repentance, c'est payé, c'est fait, c'est fait ». C'est fait. Et dans l'imaginaire de l'époque, une dette, c'est souvent une image du péché. Fait que ces deux images-là sont collées. C'est comme si ça vient ensemble. Et le roi est en train de rétablir ce fonctionnaire-là. Dieu nous transforme. Mais ici, vous comprendrez qu'on est dans un contre-exemple. Honnêtement, si quelqu'un efface une dette de 134 000 années de travail sans congé férié, comment est-ce que ça ne peut pas nous transformer de l'intérieur? Comment ça ne pourrait pas nous amener à vivre une vie différente de celle qu'on a vécue? On a de la misère à imaginer ça, hein? Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont goûté à la grâce de Dieu? Vraiment, qui ont été pardonnés, qui ont été restaurés, puis qui ont décidé, ça n'a plus de valeur. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le texte le parle aussi, hein? Cet homme s'endurcit alors que finalement, il y avait tout pour être transformé dans son intelligence, dans ses actions, dans ses paroles. Mais il décide que devant le message d'une grâce extraordinaire, il continue son chemin en étant même pire que ce qu'il était avant. Et à quelque part, ça nous parle de la responsabilité qu'on a. Quand la parabole va dire « pardonne comme tu as été pardonné », bien, ça veut dire, ton pardon était grand, je te demande de pardonner. Maintenant, il y a toujours cet aspect-là qu'on essaye de mettre en place pour juste éviter. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on est obligé de redevenir des meilleurs amis. Si quelqu'un a abusé de vous dans toutes les phases possibles qui existent, vous devez lui pardonner. Mais ce pardon-là n'implique pas d'aller se réconcilier pour devenir meilleur pote avec. C'est devant le Seigneur qu'on décide de pardonner, puis qu'on décide de dire, bien, ça, la dette qu'il a contractée envers moi, c'est à toi qu'elle appartient. C'est une cession de dette. C'est une cession de créance. On le laisse à Dieu et c'est lui qui gère ça. Mais moi, je ne veux pas avoir de l'animosité, d'avoir de la colère ou le désir de me venger. Je laisse ça au juste roi qui est le boss de tout. Comprenez? Comment est-ce qu'on peut recevoir une telle dette sans avoir une vie transformée, honnêtement? J'ai de la misère à l'expliquer. Mais une des choses que si vous ne l'avez pas comprise encore, je vais être très, très clair. Ce serviteur qui doit 10 000 kilos d'argent ou 10 000 talents, bien, c'est nous. C'est nous. Sa dette, c'est aussi la nôtre à travers nos fautes. Ce cœur qui tend vers le mal, c'est notre nature pécheresse qui nous pousse. Hein? L'apôtre Paul va dire, je fais des choses que je ne voudrais pas faire, puis je ne fais pas ce que je voudrais faire. Il y a une nature en nous qui veut attendre vers le mal, mais à quelque part, c'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé puis de ne pas refuser la transformation du Seigneur. Mais c'est nous, ça. C'est nous, ça. Et notre décision de qu'est-ce qu'on fait suite au pardon reçu de Dieu, bien, c'est nous. Ici, là, je ne sais pas combien il y a de personnes qui vraiment ont expérimenté, qui vivent dans le pardon de Dieu, là. Mais si je pouvais faire témoigner chacun d'eux, peu importe la grandeur de vos fautes, puis qu'est-ce que vous avez dû demander pardon à Dieu, là, il y en a plusieurs que malgré la grandeur du pardon, il y a des jours où ce qu'ils voudraient tout sacrer Dieu, là, puis aller vivre leur vie ailleurs. Je ne vous dis pas que c'est la bonne chose à faire. Faites-le pas, s'il vous plaît. Faites-le pas. Je ne vous encourage pas à le faire. Mais je fais juste dire que la décision que cet homme-là prend, c'est une décision que nous aussi, on a besoin de prendre. Celle de continuer de suivre le Seigneur. Celui de continuer de laisser transformer nos cœurs. Et celui d'être constamment reconnaissant du pardon qu'il nous a accordé et de la dette qu'il a lui-même payée de ses propres poches à travers la richesse de sa gloire. J'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Si vous prenez un couple qui vient de se marier, ils sont en lune de miel, tout va bien, ils se sont fait donner plein de cadeaux, ils n'ont pas de dette sur leur mariage, qui est absolument exceptionnel ces temps-ci. Bon, OK. Et puis là, vous leur annoncez, « Hey, tu sais pas quoi? » Ils se font texter pendant leur voyage de noces, « Tante Germaine, elle a une job. » Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire quand ils sont en voyage de noces, que tout est parfait, beau dans le meilleur des mondes? Ils vont dire, « C'est une bonne nouvelle, wow! » Avec l'intonation que j'ai mis. Mais si, finalement, le contexte est différent, s'ils se rendent compte que ça fait 10 ans que Tante Germaine reste à la maison, que la famille a eu besoin de faire des sacrifices financiers over and over pour la soutenir, pour l'encourager, ça fait 10 ans que vous priez à tous les soirs que Tante Germaine puisse avoir une job, bien, votre réaction, ça ne sera pas juste « Ah, c'est une bonne nouvelle ». C'est comme « Wow, c'est une super nouvelle! On est content pour ma tante qui va avoir une job, puis qui va être autonome, puis que si, puis que ça, puis que nos prières sont répondues, puis c'est extraordinaire! » Il y a des fois qu'on voit la bonne nouvelle de Jésus exactement comme ça. On dit « Ah, oh, c'est le fun, nos péchés sont pardonnés. » Alléluia! Il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Puis quand on comprend la mauvaise nouvelle, c'est comme ça qu'on peut quantifier la bonne nouvelle. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dans cette parabole-là, tout a rapport avec Dieu dans l'Évangile. Dieu, l'homme détruit, s'endurcit, Dieu restaure. Dans cette parabole-là, tout a rapport au roi. L'homme s'enfonce dans sa dette, se détourne, mais le roi libère. Mais cette personne-là prend quand même la décision de s'en aller, de s'en aller. Il y a un texte, on n'aura pas le temps. Mais j'aimerais vous poser quelques questions en terminant, alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que tu vis comme un affranchi du Seigneur, comme un libéré du Seigneur? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui a été pleinement pardonné par le Seigneur? Question comme ça. J'en ai une autre. Est-ce que tu pardonnes comme Christ t'a pardonné? Est-ce que tu vis comme si Dieu ne t'avait pas sorti d'une dette immense que tu as contractée par tes propres fautes? Est-ce que tu vis comme si ce n'était jamais arrivé? Est-ce que la reconnaissance est ton partage ou c'est la peur de manquer de quelque chose qui dirige ta vie? Est-ce que Christ est ton roi, ton maître, ton sauveur, ton trésor? Et j'accentue sur le trésor, je trouve ça beau ça. C'est-à-dire qu'on peut voir Dieu comme étant celui qui a signé le contrat qui me libère de ma dette. Alors, je suis comme reconnaissant envers un avocat qui a signé la bonne lettre. Mais quand on fait Christ notre trésor, ce n'est pas juste un contrat qu'on vient de signer. C'est une relation qui prend tout son essor. Trésor de ma vie. Parce que l'Évangile devrait provoquer une nouvelle façon de voir le monde, qui est différente de celle dans laquelle, du monde dans lequel on est. On n'est pas les maîtres. C'est lui qui est le maître. Puis si on est pardonné, c'est de sa faute. C'est à cause qu'il a fait le premier pas. On est en dette, mais Christ nous libère de cette dette-là. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et sa colère s'élève contre l'injustice. D'ailleurs, Éphésiens 2, versets 3 à 5, va dire la chose suivante. Et là, ça l'explique sans parabole. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 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 Et j'aimerais illustrer la nature humaine de cette façon-là. C'est comme si vous avez une immense dette, mais l'être humain, la parole va dire qu'on est esclave de ce qui nous a affranchi, là, mais on est esclave du péché dans lequel on est. Puis à quelque part, l'image que j'ai, c'est si on essaie de se sauver à travers nos bonnes actions, si on essaie de se sauver à travers les bonnes choses qu'on pourrait faire à gauche, à droite, bien, à travers cette parabole-là, ce qu'on voit, c'est qu'on est destiné à être en prison parce qu'on a une bien trop grosse dette. Comment est-ce qu'on pourrait rembourser une dette d'une telle ampleur en étant nous-mêmes prisonniers de notre propre nature? C'est comme impossible. Comment est-ce que vous pourriez faire assez de bonnes actions pour rembourser les 600 000 péchés effectués par Johan puis Joanne? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Là, j'essaie de vous faire réfléchir avec des chiffres. Je sais que ça parle à certains, puis d'autres sont comme... Les chiffres, ça ne vous dit rien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre nature humaine est aussi incapable de se sauver que cet homme est capable de rembourser sa dette par lui-même. Et ça, notre nature humaine, elle est enchaînée. On a besoin de Christ qui nous libère de notre dette. La grosseur de tes fautes n'est pas plus grande que les richesses divines pour acquitter ta dette. Et le nombre de tes péchés n'est pas plus grand que la compassion de Dieu à t'offrir son pardon. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement comprendre qu'on a besoin de se repentir et de faire exactement comme cet homme qui a eu cette grosse dette-là, qui a fait ça, aie pitié de moi. Et c'est la réponse adéquate à comprendre qu'on a une dette envers le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et on va chanter un chant dans quelques moments. Peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as jamais compris que finalement, tu ne méritais pas tant d'être pardonné par le Seigneur. Puis peut-être que tu ne savais même pas que tu étais en dette et que finalement ton péché t'éloignait de la gloire de Dieu. Mais si ce matin, tu entends ce message, tu entends l'Évangile et tu fais comme « Ouf, j'ai besoin de quelqu'un qui me libère de mes dettes, j'ai besoin de quelqu'un qui pardonne mes péchés », ben, tu es au bon endroit ce matin. Et je t'encourage dans ton cœur à vraiment faire comme cet homme et à demander grâce au Seigneur afin de vivre cette nouvelle vie-là avec lui. Et on ne sort pas d'ici en étranglant quelqu'un d'autre, mais on sort d'ici avec une relation restaurée avec le Sauveur. Seigneur éternel, je reconnais la dette que j'ai envers toi. Et Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, si ce n'est pas de ta grâce, qu'est-ce que je peux faire? Et Seigneur, je te demande de me pardonner, de prendre patience, de me libérer de cette dette afin que je puisse être ton serviteur, afin que je puisse te suivre, afin que je puisse être justement la personne que tu veux que je sois, connectée avec toi. Alors Seigneur, pardonne mes fautes, je m'en repens et je m'approche de la croix ce matin. C'est vous ce matin. Je vous encourage à faire cette prière-là et à vous approcher de votre Sauveur. Le seul qui peut vous sortir de cette dette-là qui est sur votre vie. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses accomplir, Seigneur, l'impossible. C'est-à-dire qu'il y a juste toi qui peux sauver, il y a juste toi qui peux pardonner, il y a juste toi, Seigneur, qui a les ressources pour effacer nos dettes. Seigneur éternel, je te prie que les uns et les autres, peut-être une personne qui ne te connaît pas encore personnellement, je te prie qu'elle puisse naître de nouveau comme ta parole le mentionne, qu'elle puisse marcher en nouveauté de vie, que ce poids de dette qui l'enfonce vers le bas puisse être enlevé, qu'il puisse goûter la pleine liberté en Jésus-Christ. C'est en ton nom, Jésus, que je le demande. Amen. Amen.